Bonsoir à tous.
Bonsoir, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans cette émission de cœur à cœur que nous retrouvons à chaque deuxième mardi du mois. Nous voilà à mi-carême. Nous avons fait la moitié du chemin et nous montons directement sur cette route qui nous mène à Pâques. Cette belle route qui nous mène vers cette grande lumière qui va éclairer nos cœurs, qui va nous redonner la joie de la résurrection, la joie de la foi, et qui va nous récompenser tous les efforts, tous les petits gestes de charité, tous les efforts qu'on a pu faire envers les autres. Je disais à mes enfants, on va faire deux choses. On va faire des privations, on va se priver des petites choses, et on va fortifier, multiplier les belles choses qu'on sait faire. Ils étaient très contents, heureux, et comme ça, on a pu faire un beau jardin pour préparer la fête de Pâques, pour préparer ce jour où ils vont cacher les œufs, aller retrouver les œufs. Et c'était un effort, et en même temps, on avait appris des belles choses ensemble, comment travailler en équipe, comment faire des choses ensemble, et puis en même temps, des petites privations que nous avons fait ensemble en famille pour pouvoir faire un acte de charité, un acte de générosité vers ceux qui sont dans le besoin. Apprendre cela aux tout petits, ça nous remet aussi dans la dynamique que nous ne sommes pas seuls et que beaucoup, beaucoup ont besoin de nous aussi. Pâques, oui, c'est la grande fête des chrétiens, c'est la fête de notre foi, c'est la racine même de notre foi. On dit chez moi au Liban, c'est la grande fête, l'Eid el-Kibir, comme on le dit aussi dans d'autres religions, mais oui, c'est la grande big one. Hein, pourquoi? Parce que là, la vie a triomphé sur la mort et tout était accompli et Jésus est ressuscité, comme il nous l'a promis. Nous le refaisons tous les jours et particulièrement tous les dimanches. Ce n'est pas juste là le 9 avril 2023. C'est tous les jours que nous renouvelons notre foi, que nous disons Jésus, je t'aime, je crois que tu es vivant dans ma vie. Et si je ne crois pas assez, ben je dois trouver les sources et les ressources pour retrouver la flamme de ma foi, la flamme de ma joie. Et cela, on le retrouve en renouvelant notre baptême. Ce moment où on a été appelé à devenir des disciples du Christ. Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons en nous cette force. Et surtout pour ceux qui sont confirmés à se paracler pour repousser le mal et pour épouser le bien, pour faire grandir en nous ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est beau. Et ça, un chrétien ne peut être que beau malgré toutes les difficultés, les souffrances. Le Christ est ressuscité avec ses plaies. Il était beau, transfiguré. La personne qui était sur la croix complètement défigurée, déchiquetée, cassée, trouée, blessée, morte, est apparue le jour de Pâques avec ce beau visage et aussi avec les stigmates de la croix. Quand il est venu au milieu du cénacle qui avait les disciples avec Marie, il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. La paix soit avec vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Ils ne l'ont pas tout de suite reconnu parce qu'il avait un visage, je l'imagine, un beau visage, autre, et puis il leur montre ses plaies. Regardez, regardez mes mains. Vous voulez mettre la main dans mon côté, disait-il à Thomas, viens. Et non, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, il s'est mis à genoux. Il l'a reconnu d'abord par la voix de celui qui apaise, et aussi par les blessures. N'ayons pas peur de nos blessures, de nos difficultés, de nos souffrances. Le Christ est capable de les ressusciter et de les rendre beaux. Nos problèmes, nos difficultés, nos souffrances, il n'y a que Jésus qui peut les transformer en ce beau visage que nous sommes, ce visage du chrétien rayonnant évangélisateur. Et cela, grâce à notre baptême. Nous avons le dimanche dernier, reçu la lecture de la Samaritaine. Jésus lui demanda de lui donner à boire. « Femme, j'ai soif, donne-moi à boire, et je te donnerai de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. » Quelle est cette eau? Cette eau du baptême, cette eau vive qui altère toutes nos soifs, qui altère tout homme, toute personne qui le désire et qui donne la vie éternelle. Bientôt, on va parcourir la dernière ligne de droite avec tout ce que nous avons encore à faire. Si nous n'avons pas réussi la première moitié, et il y a encore la deuxième. Et jusqu'au dernier jour, le Seigneur nous appelle à quitter le mal et à recevoir cette bonne nouvelle. Il est vivant. Ce que les disciples ont commencé à proclamer dans tout Jérusalem, sur toute la Méditerranée, sur toute la terre, jusqu'à Rome. C'est lui le Messie. Il est vivant. Nous le confessons, nous le professons. Notre Maître n'est pas mort. Il est vivant à jamais. Au prix de leur vie, au prix de beaucoup de souffrances, au prix de martyrs et des milliers et des millions de martyrs pour professer cette foi. Parce qu'ils n'ont plus peur de la mort. Ils ont quitté cette peur qui nous sclérose, qui nous empêche de reconnaître la vie qui est en nous, la belle vie qui est en nous, la beauté de l'être vivant que nous sommes. Chers amis, parfois nous vivons dans des conforts extraordinaires et nous nous rendons compte que nous sommes tristes. Parfois la tristesse elle est due à des choses justes aussi, à des manques, la perte d'un être cher, une santé fragile, un handicap. Il est là, au milieu de nos vies, pour nous soulager, nous consoler et nous dire, donne-moi la main, viens, je te le fais lever et je t'amène sur ce chemin de résurrection, ce chemin de paix qui commence, comme l'évangile d'aujourd'hui, de ce mardi 14 mars, où Simon-Pierre posait la question à Jésus, combien de fois faut-il que je pardonne? Cette fois, il pensait donner le chiffre saint, le chiffre parfait, 7, et donc 70 fois, 7 fois. Autant que tu peux, autant que tu dois, il faut que tu pardonnes, parce que c'est le chemin, c'est la clé pour rentrer dans la paix de Pâques, dans la paix de la joie, dans la paix de la lumière. On ne peut pas arriver à Pâques sans avoir reçu le pardon et sans avoir pardonné à ceux qui y attendent le nôtre. Allons-y, préparons nos cœurs si ce n'est pas encore fait, pour arriver en état de grâce, recevoir cette grâce qui est la résurrection. Même si ce n'est pas le temps encore, alléluia les amis, le Christ est vivant, il est ressuscité, vraiment ressuscité. Lucas Tierney, bonsoir et bienvenue à Radio Maria dans cette émission de Cœur à Cœur.
Bonsoir, merci beaucoup de m'inviter.
Lucas Tierney, une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, il vient de sortir un livre intitulé, évidemment, L'Évidence. Et il va nous dire en deux mots qui est Lucas Tierney avant de parler de son expérience de foi.
Merci beaucoup, Fouad. Bonjour à tous. Je m'appelle Lucas. J'ai 31 ans et j'ai été baptisé en 2019 après un long parcours de conversion qui, du coup, a porté un fruit. Enfin, en tout cas, j'espère que ce ne sera pas le seul. Ce livre témoignage, du coup, que j'ai rédigé il y a 3 ans et qui sort chez Arthège. Eh bien, demain.
Allô, allô?
Oui?
Oui. Demain, la sortie du livre s'appelle L'évidence. Il y a quelque chose d'évident qui est arrivé dans votre vie et qu'on va un petit peu découvrir petit à petit. Vous avez dit, j'ai 31 ans, je sais que vous travaillez dans le conseil, que vous êtes un jeune loup dans le business, vous avez fait une grande école de commerce, vous aviez la vie devant vous, un avenir professionnel prometteur, et puis vous n'étiez pas croyant. Et le sous-titre de votre livre, un incroyant qui s'est converti, un incroyant. Pouvez-vous nous dire, Lucas, que signifie pour vous un incroyant? C'était quoi? Moi qui n'ai chrétien, qui t'ai baptisé le premier jour de ma vie, je ne sais pas ce que ça veut dire, et beaucoup de nos auditeurs aussi. C'est quoi un incroyant, Lucas Tierney?
Alors, pour moi, ça va même limite plus loin que cette notion de incroyant, puisque j'ai carrément été élevé dans le rejet de l'Église, le rejet des croyances, parce que l'Église était souvent vue comme une institution tenue par les hommes, au service des hommes. Dieu n'était pas dans mon schéma. Et en fait, du coup, c'est paradoxal parce que je ne savais pas ce qu'il me manquait, en fait. Je vivais avec les moyens qui étaient à ma portée. Je ne croyais pas à l'invisible. Pour moi, l'Église, c'était le symbole du passé, des traditions, des règles, d'un carcan, en fait, qui menaçait l'idéal de liberté dans lequel je vivais. Et du coup, j'ai été assez obnubilé en fait par l'accumulation des sources de richesse entre guillemets visibles, quoi, qui sont à la portée de n'importe quelle personne qui ne réfléchit pas plus loin que ce qu'elle voit en face d'elle, quoi. Moi, en particulier, c'était la reconnaissance. Et voilà. Et c'est là où je trouve que la foi donne un véritable horizon, une vraie respiration en fait que j'ai découverte.
Et qu'avez-vous découvert? Comment ça s'est passé, ce déclic-là? Pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, et d'écrire un livre et de témoigner de votre foi chrétienne, puisqu'aujourd'hui vous êtes un catholique pratiquant, et vous avez dit vous étiez baptisé il y a 4 ans, donc bientôt vous avez fêté ça. J'imagine que c'était la nuit de Pâques aussi. Oui. Que s'est-il passé dans votre vie? Quel événement, quel phénomène, quelle rencontre vous ont poussé à aller découvrir qui était le Christ du Capitaine?
En fait, il y en a eu une multitude. Et c'est là où je trouve qu'on voit bien que Dieu est vraiment capable de se mettre à notre hauteur, qu'il nous connaît vraiment. Moi, ce que je pense que j'ai vraiment eu la foi le jour où j'ai accepté de lâcher prise et de faire confiance à quelqu'un, en fait, à quelqu'un d'autre que moi, pour guider ma vie. Et il y a eu un élément perturbateur qui était la rencontre d'un ami. En fait, je travaillais comme skipper sur des voiliers l'été. J'étais dans une vie assez festivalière, on va dire, pour vous donner une idée. Je travaillais les journaux croates nous surnommaient les Sodome et Gomorre de Croatie, quoi. Donc c'est dire. Donc je partais vraiment de très très loin, et c'est là où je me dis que moi ça me donne vachement espoir, parce que je me dis Dieu il peut aller nous chercher peu importe là où nous sommes. Et moi en l'occurrence c'était une messe en fait à laquelle j'ai participé. Et ça a éclairé tout mon chemin de conversion, en fait. Quand je m'en suis rappelé à cette messe, il se trouve que j'ai prié. J'ai tenté, en fait. Je me suis dit que c'était un pari. C'était un peu un pari pascalien où je me suis agenouillé et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il n'y aura que moi qui le sera. Et du coup, j'ai tenté en m'adressant à Dieu sans trop savoir comment. Et je lui ai demandé... Déjà, j'ai confié ce que je traversais, un peu ce péril de l'épuisement que je sentais me guetter, en fait. Je sentais que j'étais dans une impasse à essayer d'accumuler ces sources de bonheur, de reconnaissance incessante, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, j'avais un peu la vie un peu cliché d'un, d'un, un jeune homme de 22 ans qui a tout ce qu'un jeune homme de 22 ans, moyennement éclairé, et un peu ignorant, un peu immature, peut espérer. Mais au milieu de tout ça, je crois que j'ai eu vraiment un éclair d'honnêteté vis-à-vis de moi-même. Et cette honnêteté, je l'ai confiée à deux. Et à ce moment-là, je lui ai dit, voilà ce que je traverse. Et si tu peux m'aider à réaliser mon potentiel et à trouver la paix, je serai heureux. Et 6 ans et demi plus tard, je me faisais baptiser, en fait. Et après, ça a été une succession de rencontres et de tout.
Lucas Tierney, vous avez parlé au début de notre émission de l'inexistence de Dieu pour vous, ou le rejet même. Vous êtes adressé à quelqu'un que vous rejetiez, que vous ne connaissiez pas, vous avez fait confiance parce que vous avez rencontré un ami, et ça vous le racontez bien dans votre livre, cet instrument qui vous a conduit vers Dieu. Et à ce moment-là, vous croyez à ce Dieu à qui vous parliez ?
Non, à ce moment-là, je ne croyais pas. Je me souviens avoir pris du recul dans cette messe. Déjà, j'ai senti le silence, j'ai senti le bien que ça faisait de pouvoir déjà s'asseoir, poser, avoir juste une heure de silence dans les festivités dans lesquelles j'étais. Et je me souviens avoir fait un peu un examen de la situation, m'être dit, on est en 2013, on est en Croatie, ça fait 2000 ans que cette religion, en tout cas christique, existe. Elle a parcouru les 2/3 du monde. Et mon ami, c'est vrai qu'il avait on ne pouvait pas rester indifférent. Il s'appelait François Pinsac. Et c'était quelqu'un qui avait un charisme très particulier. Et je me souviens m'être, à la vue de ces trois éléments, m'être dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'est là, en fait, que j'ai tenté, en fait, malgré mon anticléricalisme, malgré mon rejet de l'Église, j'ai confié à Dieu ce qui m'habitait vraiment et ce que je pense que j'avais même pas eu la force de reconnaître vis-à-vis de moi. Et c'est en fait mon anticléricalisme et mon rejet de l'Église qui a fait, en fait, que je rentre ensuite dans l'Église. À la sortie de cette messe, François est venu me voir et m'a dit, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Je lui ai dit que j'étais curieux. Et en fait, à ce moment-là, ce qui m'habitait, moi, libertin, convaincu, un peu anticlérical sur les bords, c'était je vais rencontrer les personnes dans l'Église, rencontrer des catholiques et leur montrer que moi, je connais la recette du succès et je vais la faire partager. Et en fait, petit à petit, mon cheminement, il a commencé comme ça. Il a commencé avec cet anticléricalisme. C'est vite. Voilà,
c'était un boomerang pour vous, quoi. Vous êtes tombé dans votre piège.
Complètement. Je suis tombé dans mon piège et j'ai trouvé un peu plus malin que moi sur la route. Ouais. Mais c'est fou parce qu'on se dit.
Des gens éclairés.
Oui.
J'avais lu le livre et on rend hommage à notre ami François qui est décédé, que vous avez perdu aussi, qui était un quelqu'un qui a beaucoup compté sur vous, mais le Seigneur ne vous a pas abandonné. Et je sais qu'il a mis beaucoup de gens sur votre route. Ça compte beaucoup pour vous, les personnes. Et je sais que vous êtes un homme de relations. Mais quel est aujourd'hui, au-delà de toutes ces personnes, quelle est votre relation, vous, maintenant, à ce Dieu que vous avez maintenant reconnu, professé, et que vous êtes baptisé et vous témoignez si fort? Qui est Dieu, en deux mots, avant qu'on prenne la pause, qui est Dieu pour Lucas Tierney aujourd'hui? Si vous voulez juste nous définir, qui est Dieu pour vous?
En deux mots, alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais en 6 ans et demi de doute et de tiraillement, Dieu, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est un ami et c'est un partenaire. C'est vraiment, c'est ineffable de par cette. Voilà, caractéristique plurielle qu'a Dieu, à la fois entité supérieure, à la fois homme, à la fois esprit. Mais tout ça, cette entité forme pour moi un partenaire, quelqu'un sur qui m'appuyer et quelqu'un qui, je sais, en fait, va m'aider à réaliser ce qu'il y a de meilleur en moi. Ça, aujourd'hui, j'en ai acquis la certitude et je l'ai acquis, cette certitude, grâce à lui, parce qu'il m'a apporté, en fait, quelque part, difficile de parler de preuves, mais il y a presque de ça dans mon cheminement à travers les rencontres que vous avez citées. Ces rencontres sont des preuves pour moi de cette existence, de cette connaissance qu'il a pour chacun de nous et du fait qu'on peut vraiment s'en remettre à lui.
Amen. Mon cher Lucas, vous avez parlé de votre parcours de foi depuis 6 ans et demi, vous dites. Vous êtes baptisé en 2019. Et puis, vous avez abordé le sujet des doutes. Quels sont les combats à convertir? Moi, je n'aime pas trop ce mot-là, mais on va l'utiliser quand même parce qu'on se convertit tous les jours. Hein. Moi aussi, je suis un converti chaque jour. Mais d'un incroyant qui est devenu un croyant, quel est le combat du croyant qui était un incroyant depuis que vous êtes baptisé, mon cher Lucas Tiani?
Oui, merci. Je pense que c'est une question qui s'applique beaucoup à mon cheminement parce que le mien était assez long parce que ce combat, je l'ai un peu mené de... J'ai un peu fait feu de tous bords parce que pour moi, il était important que je sois cohérent avec ce que l'Église m'apprenait. Et donc, ça a été un combat à la fois d'idées, intellectuelles, rationnelles, et ça a été aussi un combat intime, intérieur. Je pense que le plus gros verrou, c'est celui qui est de l'ordre de l'intime, en particulier, et je pense que voilà, il est commun à beaucoup. C'est pour moi en tout cas le plus dur, ça a été ma volonté de contrôle. Quoi. J'avais une vie, voilà, comme vous l'avez bien expliqué, scindée entre une vie sociale assez hyperactive, une carrière en devenir, beaucoup d'ambition. Du coup, forcément, une tendance à contrôler beaucoup mon quotidien, ma vie, planifier. Et en fait, la vie en Dieu, c'est là où je trouve qu'il y a une libération qui est vraiment salvatrice. Et c'est de pouvoir lâcher prise, en fait, quelque part. C'est de pouvoir...
L'abandon.
Voilà, l'abandon. Pour moi, ça a été de loin le combat le plus difficile. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu, en fait, tout ce temps pour que Dieu m'éduque et me montre, en fait, que j'allais pouvoir m'abandonner. Et ça s'est vraiment fait sur la fin. Ça s'est fait sur les derniers mois de mon parcours de conversion, à quelques mois de mon baptême. J'ai compris que je pouvais faire confiance à Dieu. Et après, bien sûr, il y a beaucoup de combats sur... j'avais des idées très différentes. Une éducation complètement différente. Et c'est justement ça que l'Église m'a apporté. Mais l'Église a vraiment été une école pour moi. Une école de l'amour, une école de la liberté, une école de tolérance, d'ouverture, de vérité. J'ai découvert des notions qui sont dans ma vie actuelle me servent tous les jours. Je pense au miracle de la confession, je pense au pardon, je pense à la vérité. Voilà, quand on regarde la vie de Jésus, c'est quelqu'un qui dit les choses. Moi, j'étais toujours dit les chrétiens, c'est des bisounours, ils disent pas les choses telles qu'elles sont. Ils sont toujours dans. On est bienveillant, mais on peut parfaitement être bienveillant et être vrai. Vrai, exactement. Pareil, la générosité, pour moi, ça a été une. C'est très beau d'être chrétien parce que voilà, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. J'ai trouvé ça magnifique, cette idée. L'Église m'a appris qu'est-ce que c'était que le don, le vrai don. À la fois le don en sachant que à partir du moment où on donne, je sais que ça passe pas inaperçu aux yeux de Dieu, donc il faut savoir se déposséder. Et puis il y a aussi cette idée de véritable générosité. Je pense que quand on n'est pas chrétien, c'est possible, mais je pense que c'est plus difficile parce que Dieu nous apprend ce que c'est qu'un don gratuit, un don sans retour. Et
sans
ça, pour moi, ça a été
voilà, une grande éducation. Merci Lucas Tierney, c'est très très beau et très didactique d'entendre ce que est aujourd'hui l'école de l'Église et comment on apprend à le devenir et aussi à le renouveler dans notre vie. Vous avez dit, Lucas Tiani, à un moment dans vos paroles que je n'ai rien à perdre. Mais le fait d'être devenu un chrétien, d'être baptisé, Avez-vous perdu des amis? Avez-vous eu des oppositions dans votre famille, dans votre entourage? Vraiment, vous avez tout gagné? Vous n'avez absolument rien perdu, Lucas Thierry?
Oui, c'est drôle parce que en engageant ce chemin, je me suis rendu compte qu'aucune de mes inquiétudes ne s'était réalisée, que j'ai gagné bien plus que ce que je craignais de perdre. Et d'un autre côté, c'est vrai que en fait, dit comme ça, il y a des combats parce que je me rends compte que, en particulier d'idées. L'Église, elle a un héritage qui est, voilà, et une actualité qui sont pas toujours faciles à porter, et des adversaires. Et moi, mon milieu d'origine est un adversaire assez frontal de l'Église. Et c'est vrai que ça n'a jamais été facile. Mais quelque part, parce que voilà, il y avait de l'opposition permanente à ce cheminement. Et d'un autre côté, en fait, cette opposition, c'est de là que je me dis que Dieu, de tout mal, il peut faire un bien. C'est que cette opposition a participé à ma formation. Parce que comme j'étais un catéchumène, en fait, il est toujours entre deux mondes. Il apprend d'un côté, il s'inspire auprès des catholiques, et d'un autre côté, en fait, on lui pose des questions. Et du coup, il est sur le devant de la scène. Et en fait, ben, la meilleure pédagogie du monde, c'est apprendre et reformuler. Et moi, en fait, en étant constamment comme ça partagé entre ces deux mondes, à reformuler ce que l'Église m'apprenait, et bien du coup je l'intégrais. Et du coup cette opposition, en fait, finalement, elle peut avoir une image d'obstacle, mais d'un autre côté, elle a aussi été pas un accélérateur, mais quelque chose qui m'a aidé à bien intégrer, en fait, ce que l'Église elle m'apprenait, parce qu'en le défendant,
Pour un jeune
je
croyant,
voilà.
même si vous avez 31 ans, mais bon, dans l'Église, vous n'avez que 4 ans, n'est-ce
C'est
pas?
vrai. C'est vrai.
Et pour un jeune
Nouvelle.
croyant, pourquoi un livre, quoi? Lucas Tierney écrit un livre, c'est l'évidence. C'est pas un petit peu prétentieux de venir de témoigner de votre foi chrétienne, vous qui êtes encore un bébé, quoi. N'est-ce pas, Lucas Tierney? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? C'est quoi le but et c'est qu'est-ce que vous voulez passer comme message dans cette œuvre-là, Lucas?
En fait, c'était pas du tout au programme dans ma vie. Moi, je m'étais fait baptiser et je suis allé à Lourdes 4 mois après mon baptême, parce que voilà, je voyais Lourdes comme un peu une lune de miel, quoi, entre Dieu, Marie et moi pour voilà, célébrer ce baptême. Et en fait, là, un prêtre un jour m'a demandé de témoigner. Il avait su que je m'étais fait baptiser récemment. Alors sur le moment, voilà, j'ai un peu improvisé mon témoignage et en fait, il y a eu un véritable effet boule de neige qui, moi, m'a totalement surpris, voire désemparé au début, parce que je ne comprenais pas exactement, comme vous l'avez dit, je trouvais ça prétentieux que moi, je parle de foi, alors que j'étais entouré de personnes qui la pratiquaient depuis parfois 40 ans, les doyens du service, ça fait 50 ans qu'ils viennent chaque année au pèlerinage national. Je me disais, mais qu'ai-je à dire à ces gens? Moi, j'ai tout à apprendre d'eux. Et en fait, je suis allé à la messe après avoir reçu voilà, une ribambelle de et j'ai confié ça à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux là avec ces demandes de témoignage? Je lui ai dit, j'étais dernier des derniers. Pourquoi moi? Et en fait, j'ai eu ma réponse. Elle était dans la question. En fait, puisque que je me suis rendu compte en écrivant, c'est que comme j'étais dernier des derniers, en fait, il y a beaucoup d'obstacles à la conversion que j'ai affrontés et que j'ai, entre grosses guillemets, avec la grâce de Dieu et grâce à toutes les personnes qui m'entouraient pour le faire, triomphé
L'ouvrier
quelque
de la
part.
dernière heure, quoi.
C'est ça, exactement. Et en fait, je me suis dit, en fait, on est tous pour moi des convertis. Notre foi, c'est un chemin permanent. Je l'expérimente surtout là, voilà, après 4 ans de vie de baptême. Je suis content de pouvoir dire que la phrase de Frédéric Bébé, selon laquelle l'amour dure 3 ans, est fausse. L'amour peut durer plus longtemps que 3 ans, à condition de s'en donner les moyens. Et c'est du coup voilà, je m'étant rendu compte que les freins à la conversion, en fait, c'est des freins qu'on va rencontrer toute notre vie. Je me suis dit, ben, si pendant 6 ans et demi, j'ai travaillé ces freins et j'en ai trouvé des clés, eh bien, autant les partager. Et du coup, j'ai un peu, entre guillemets, accepté ce rôle de témoin. J'avais pas prévu d'écrire pour autant, mais il s'est trouvé que c'était la forme la plus cohérente pour le faire, quoi. Et du coup, je me suis lancé et voilà, Dieu a pourvu à tous mes besoins. Et juste pour la petite anecdote, c'est quand même assez drôle parce que, bah, à ce moment-là, j'étais toujours aussi, entre guillemets, carriériste. J'avais pas prévu de prendre un an comme ça pour Dieu, parce que j'ai pris un an pour voilà, écrire le témoignage, faire des études à côté. Et finalement, enfin, c'est là où je me dis que Dieu nous amène vraiment à faire des choses qui nous dépassent et qu'on n'a pas prévu, quoi. Moi, j'avais prévu de reprendre mon travail à la sortie de Lourdes, et au lieu de ça, je me retrouve pendant un an avec un projet de livre à écrire, des cours de théologie et une vie dans un monastère. C'était quand même, voilà, assez beau.
Pourquoi vous êtes si fier d'être un chrétien jusqu'à raconter cela dans un livre et en parler dans les radios, dans les journaux? À 31 ans, on a envie de faire autre chose, quoi, et de se cacher, de travailler pour sa carrière, assurer son avenir. Et là, vous exposez. Et chrétien, vous exposez pour votre boulot, pour vos amis, pour tout ce qui vous entoure. Je ne veux pas dire que c'est courageux, c'est peut-être un petit peu, allez, suicidaire, quoi. Pourquoi tout cela, Lucas? Quel message là en deux mots à nos auditeurs?
En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est bah, pour le coup, c'est devenu une évidence
Ah, le
dans ma
mot.
vie. C'est drôle, c'est le mot qui m'est venu en tête. Parce que la foi est vraiment un trésor. Le mot est pas ni anodin, ni il sous-estime pas la réalité de ce qu'a été en tout cas la foi pour moi. Et j'ai acquis la certitude que Dieu se place vraiment au niveau de chacun. Je pense que c'est ça, surtout, que j'ai voulu montrer dans le livre. C'est que Dieu, il nous prend vraiment là où nous en sommes. Il nous connaît. Il connaît chacun de nos cheveux. Et il nous apportera vraiment tout ce dont on a besoin pour rentrer en relation avec lui, cultiver cette relation qui va, en fait, in fine, nous permettre de cultiver le meilleur de nous-mêmes. Et ça, en fait, pour moi, c'est un message. Il est nécessaire de faire passer. Parce que je sais que le vivre ensemble, qui est une valeur qui est pour moi fondamentale dans notre pays, notre monde, l'ouverture à l'autre, la bienveillance, la justice, enfin voilà, l'Église a été une école de ces valeurs pour moi, et je tiens à ce qu'on nous ayons une nation, un pays uni. Et pour moi, ce qu'il permet, c'est notre compas moral intérieur, en fait. Le politique ne peut pas tout, l'économie ne peut pas tout. Par contre, avoir une véritable conscience éclairée sur se poser les bonnes questions, avancer, trébucher, et se poser vraiment la
Se
question de
relever.
autre pour moi, se relever, eh bien, c'est pour moi, c'est ça, le vivre ensemble. Et c'est possible. Je pense que l'Église en est très sincèrement un des principaux vecteurs. Et pour moi, du
Si ce
coup,
n'est
c'est
pas
vraiment
le.
normal. Si c'est pas le, mais oui, complètement. Complètement.
Pour terminer, Lucassien, nous sommes sur Radio Maria. Radio Mariale, forcément, vous avez parlé de votre voyage à Lourdes, votre pèlerinage 4 mois après votre baptême. En conclusion, j'aimerais que vous nous dites à nos auditeurs, mon cher Luca Tierney, qui est Marie pour vous?
Ma relation à Marie, elle a mis beaucoup de temps à émerger. Je dois dire qu'aujourd'hui, surtout avec cet épisode à Lourdes, où j'ai vraiment eu l'impression vraiment de découvrir Marie, de sentir Marie, quand je me suis rendu à Lourdes 4 mois après mon baptême, là, j'ai senti que j'avais compris. Et pour moi, aujourd'hui, c'est inchangé. Marie, c'est vraiment l'épaule sur laquelle je peux me reposer. C'est celle à laquelle je peux tout dire. C'est celle qui est toujours là. C'est le véritable, c'est l'incarnation de l'amour inconditionnel pour moi, de Dieu. Je sais que Dieu est
Et
détend,
l'amour?
est amour. Et Marie, il y a cette,
C'est la
c'est
guerre.
comme si Marie, cet amour, elle l'émanait, quoi. Et c'est ça que j'aime chez elle, en fait. Face à Marie, il n'y a vraiment aucune peur. Je pense qu'on a toujours un petit peu de l'appréhension face à Dieu, alors que cette appréhension est injustifiée. Mais Marie, il n'y a pas ça. Marie, il y a ce, y a, y a, y a, y a, y a ce côté marial, il y a ce côté mère chez elle qui fait que la confiance, elle est directe. Et ça, j'aime beaucoup.
Amen.
Amen.
Merci Lucas Cerny pour ces mots. Je vous découvre encore plus. Moi, je vous connais un peu, j'ai lu votre livre. Et là, je découvre aussi les nouvelles facettes de votre vie spirituelle. Je peux dire à nos auditeurs, en conclusion, si vous lisez ce livre, franchement, ce n'est pas le livre d'un incroyant qui s'est converti, c'est le livre de parcours d'un chrétien. De bout à bout, c'est notre parcours de chrétien, notre parcours de conversion à tous. Il y a un beau témoignage, plein de fraîcheur, plein de belles anecdotes et des signes évidents de la présence de Dieu dans notre vie. Il suffit juste qu'on ouvre nos yeux, qu'on ouvre nos cœurs et il apparaît d'une façon évidente jusqu'à dire, voilà, bah, l'évidence, elle est là, Dieu existe. Merci de le témoigner, cher Lucas Cerny. Longue vie à votre livre, à votre vie de chrétien, et que j'espère que vous rencontrerez encore beaucoup de convertis sur votre route et que beaucoup d'incroyants le deviennent croyants. C'est ça notre espérance, c'est ça la bonne nouvelle que nous annonçons au monde. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Christ est vivant, il est ressuscité, vraiment ressuscité. Je vous souhaite, mes chères auditrices, chers auditeurs, une bonne route vers Pâques. Que le Seigneur nous bénisse tous et que Radio Maria continue à porter la bonne nouvelle à nous tous et partout dans le monde. Je vous souhaite une bonne deuxième moitié de carême. Et je vous dis à très bientôt pour fêter Pâques.
Chers auditeurs, c'était notre émission Cœur à cœur avec Foi d'Assaune. Il y recevait Lucas Tierney pour son livre L'Évidence, livre publié aux éditions Artege. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.